Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Le plan sobriété est-il à la hauteur des enjeux? Alors oui, dit Elisabeth Borne, elle est dans son rôle. Objectivement, pour moi, c'est un peu « on passe l'hiver ». Et après, on verra. Le rebond d'après Covid est consommé. Hein. L'acquis de croissance qui faisait qu'on est encore à plus de 2,5% de croissance cette année, c'est derrière nous. L'INSEE est formel. Les mois à venir seront compliqués. Les Français vont devenir fourmis. Et hormis les prix, tout ralentit. Le pouvoir d'achat, la consommation, l'investissement, l'emploi. On évoquera également le FMI. Le FMI redoute une récession, alors mondiale. En tout cas, considère qu'un tiers de l'économie mondiale est vraiment menacée de récession. Il recommande aux banques centrales, bien sûr, de remonter les taux, mais avec une prudence absolue. Surtout pas de brutalité au moment où la BCE indique qu'elle restera inflexible sur ce sujet. Et puis, toujours en Europe, se joue une grande question au moment où l'Allemagne refuse de plafonner les prix du gaz, car objectivement, c'est elle qui aurait le plus à payer dans cette histoire, et elle fait son plan à 200 milliards d'euros à la surprise générale il y a quelques jours, toute seule dans son coin, et Thierry Breton en face qui dit « Nous sommes à un moment où l'idée de l'emprunt européen doit absolument s'imposer ». Il y a ce sondage, bon, c'est pas un scoop, mais ça mérite toujours des réactions. Sondage Elabe, Institut Montaigne pour les Échos, 2 Français sur 3 jugent qu'il y a trop d'assistanat en France. Alors bien sûr, ça n'est pas une analyse économique, c'est plutôt un avis politique, un réflexe d'indignation. Mais regarder avec des lunettes justement d'économiste, c'est quand même toujours intéressant de se poser la question. On dira un mot si on a le temps aussi de la nationalisation d'EDF, parce que les salariés actionnaires sont pas contents. Et non, il y a 17 ans, ils ont payé 17,03 € l'action. Non, 15,03 €. Et ils considèrent que 12 €, c'est pas normal. Voilà. Donc, ils attaquent sur tous les fronts pour essayer d'obtenir 15,03 € contre les 12 €, qui est le montant retenu dans l'OPA lancé par le gouvernement. Philippe Askenazy, bonjour.
Bonjour.
Économiste au CNRS. Vous avez publié Partager les richesses chez Odile Jacob. Denis Père, bonjour.
Bonjour, Nicolas.
Président de Nature and People First, auteur du contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Et Jean-Pierre Petit, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Je voudrais saluer 2 auditeurs qui m'ont écrit après l'émission d'hier. Hugues, Jean-Christophe, qui m'écrit « Très bonne émission ». Et puis Boris, qui me dit « Écoutez, ce matin, l'émission sur les retraites m'a fait changer d'avis ».
Ah oui. Ah.
Voilà. Et c'est vrai qu'on avait un regard croisé entre Benjamin Coria notamment et Christian Saint-Etienne qui a publié un article absolument fascinant dans les Échos mardi dernier qui nous a vraiment fait monter d'un étage sur les réflexions qu'on peut mener autour de la réforme des retraites pour ou contre la borne d'âge. Non, c'est nettement plus complexe, mais il y a des choses à faire intelligentes. Le plan sobriété, jeudi, on passe l'hiver et on verra. Denis Père.
Oui, en plan sobriété, moi ça me rappelle ma jeunesse, comme à vous tous, je pense à la chasse au gaspillage. Donc,
il y avait aussi le dragon dans sa cage.
Oui, le dragon dans sa cage, absolument. Donc, mais c'est nécessaire, il faut le faire. C'est fait de façon, je pense, intelligente, c'est fait de façon non coercitive pour l'instant.
C'est vrai. Alors que c'était coercitif, la chasse au gaspillage.
C'était
hein.
Un peu plus coercitif, effectivement, de mémoire. Enfin, en 79, peut-être pas le premier choc pétrolier. Et puis c'est fait aussi de façon. Enfin, on n'est pas dans la chasse aux riches, à faire payer les riches, enfin, pour l'instant, en tout cas aussi. On est plus. L'État même cherche à donner l'exemple, hein, ce qui est bien. Sur un sujet comme celui-là, où l'État est certainement pas exemplaire, pas plus que les autres. Donc c'est plutôt bien. Ça met surtout en évidence, effectivement, les fragilités de l'Europe en matière énergétique, en matière de politique énergétique. Ben, l'Allemagne, bien sûr, on va en reparler, mais l'aveuglement complet de l'Allemagne hein, sur ce sujet, malgré les mises en garde de Trump en 2018 à l'ONU, qui disait aux Allemands, vous êtes dans la main de Poutine, et les diplomates allemands en face qui ricanaient. Enfin bon, on voit bien que malheureusement, on ne peut pas aimer Trump, mais il avait parfaitement raison. Et puis nos propres fragilités françaises. On aurait plus investi dans le nucléaire, évidemment, on n'en serait pas là. On aurait plus investi dans les renouvelables, on n'en serait pas là non plus. On aurait plus d'éoliennes en mer, on passerait un hiver beaucoup plus tranquille. On vient juste d'inaugurer le premier parc éolien en mer à Saint-Nazaire, avec 80 malheureuses éoliennes en mer, qui coûtent que 44 euros du mégawatt-heure, il faut le rappeler, qui ont des facteurs de charge qui sont très élevés, hein, ça fonctionne pendant 45 à 55% du temps. Alors, il y a de l'intermittence, bien sûr, mais c'est beaucoup moins cher que le nouveau nucléaire, qui est à 120 euros du mégawatt-heure. Donc, c'est pas si cher que ça, et on a mis des années. C'est un parc qui a a mis 15 ans à sortir. Qui a mis 15 ans à sortir. La petite Belgique qui a 60 km de côte a sorti 400 éoliennes en mer. Nous, on a 2500 km de côte. On en a sorti malheureusement que 80. Il y en a 6000 en Europe des éoliennes en mer. Donc on n'a pas assez avancé sur le nucléaire, on n'a pas assez avancé sur le renouvelable non plus. Donc la loi qui est en préparation sur l'accélération des énergies renouvelables, elle est très bienvenue, bien sûr, elle est essentielle. Donc on commence à corriger nos fragilités, mais on va le payer pendant un moment, parce que il faut du temps pour déployer des éoliennes, déployer des moyens pour gérer l'intermittence, pour évidemment construire des centrales nucléaires, il faut encore plus de temps. Donc on a pris beaucoup de retard et on va le payer pendant pas mal de temps. Il faudra pas mal de programmes de chasse au gaspille pour corriger la situation.
Oui, je me souviens, chasse au gaspille, c'est là où on décide que l'ORT s'arrête à 23h, qu'on roulera moins vite sur les routes. Et c'était toujours l'histoire de... ça, son nom m'échappe. En 56, là, il y a le civisme et le cynisme. J'en appelle au civisme, et si le civisme ne fonctionne pas, c'est le cynisme derrière, avec rationnement, et notamment signal prix, d'ailleurs. Son nom va me revenir. Vous êtes d'accord avec le réquisitoire, Jean-Pierre Petit ?
Oui. Simplement, ce que je dirais, c'est que les chiffres de consommation de gaz dans l'Union européenne sont plutôt satisfaisants depuis quelques mois.
C'est-à-dire veut dire quoi, satisfaisant?
C'est-à-dire qu'il décélère très sensiblement, puisqu'il y a l'objectif de l'Union européenne de faire baisser la consommation de gaz à hauteur de 15% d'ici le 31 mars. Et là, pour l'instant, sur les chiffres qu'on a, on n'arrivera peut-être pas à 15% en moyenne dans l'Union européenne, mais on n'est pas très loin. Aux Pays-Bas, en Allemagne, etc., ça se passe pas mal. Et puis sur les stocks, il y avait un objectif de l'Union européenne d'arriver à 90% de stockage au 1er novembre, et je pense même qu'on va les dépasser. On va être pas loin de 95.
Oui, mais...
Donc, oui, non, mais voilà, je
dis ça. Ça couvre pas l'hiver,
Non, et d'ailleurs, il faut le rappeler, parce que il y a des investisseurs qui me disent souvent, regardez avec les stocks qu'on a, oui, sauf que les stocks, ils couvrent à peu près entre 25 et 28% de la consommation moyenne sur la période de clé pour le gaz, qui est entre le 1er octobre, c'est-à-dire maintenant, et le 31 mars, et pas plus. Ce qui fait d'ailleurs que c'est un problème qui se pose pas que pour l'hiver 2022-2023, mais très probablement
aussi. C'est pour ça que je dis on passe l'hiver peut-être, et après.
Et après, oui, parce que si on vide les stocks au 31 mars, on va jamais réussir à les reconstituer d'ici pour le prochain hiver. Et donc, c'est un sujet général. Je vois bien, je comprends bien l'argument de Thierry Breton, mais c'est vrai que si on avait fait un peu moins d'erreurs en matière de stratégie énergétique, on serait beaucoup mieux en position aujourd'hui, la France en particulier, de critiquer le plan allemand. Et alors, on est évidemment mieux protégé que l'Allemagne, globalement parlant, avec l'Espagne en Europe. Mais il est bien évident que si on avait poursuivi les 10 dernières années sur le programme nucléaire, il est bien évident qu'on aurait une marge de manœuvre beaucoup plus forte vis-à-vis de l'Allemagne. On pourrait critiquer beaucoup plus le plan allemand. Mais malgré tout, je pense qu'on va avancer là-dessus, parce que von der Leyen, par exemple, dans son discours, elle dit bien que, par exemple, dans l'esprit d'ailleurs, de l'unité européenne au moment de Covid, par exemple, on va regrouper les commandes d'achat de gaz à la Norvège ou à d'autres fournisseurs de gaz naturel.
Pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour en arriver là?
Mais c'est pareil pour les émissions de dette commune. La première fois que c'est arrivé, c'est à l'occasion de Covid. Et là, on pourrait imaginer quelque chose qui aille dans le même sens. Voilà.
Philippe Eskenazi, je sais pas comment vous regardez ce plan sobriété par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que c'est la facture de nos incuries, de nos erreurs stratégiques de politique énergétique en France, de notre absence de vision européenne de l'énergie, des choix politiques allemands qui, aujourd'hui, se retournent tel un boomerang contre la première économie de la zone euro?
En tout cas, le plan de sobriété en lui-même est déployé dans tous les pays européens. Vous savez, même un pays comme la Suède qui n'a aucun problème énergétique. Ils ont une énergie blanche, de l'hydroélectricité largement suffisante, du nucléaire, aucun problème énergétique. Et pourtant, ils font un plan de sobriété qui est encore plus ambitieux que le plan français, dans un objectif de participer, en quelque sorte, à cette sobriété globale européenne pour que l'ensemble de l'économie européenne passe l'hiver, et aussi pour réduire les coûts, puisque, étant donné les coûts de l'énergie, quelle que soit l'énergie, on cherche à réduire les coûts. Donc, la question de sobriété, c'est pas l'erreur de tel ou tel pays. Il faut pas dire que les Français ont mal fait les choses, et c'est pour cela qu'il y a une sobriété. Non. Il y a une politique européenne qui est potentiellement défaillante et qui était bien trop dépendante de la Russie. Il y a le choc de cette guerre et l'acceptation des prix énergétiques qui s'envolent, qui explique le plan de sobriété tel qu'il est là aujourd'hui. Mais c'est pas lui qui va nous amener vers les éléments de transition énergétique. Et là, je rejoins tout à fait le fait
j'ai envie,
que là,
j'ai envie de penser
coup,
que
la France est très en retard.
Ça peut participer. Le fait que tous les pays décident de mettre de la sobriété dans leur mode de fonctionnement, ça peut être une décision liée à l'hiver 2022-2023 qui va s'installer dans la durée et changer les comportements. Alors après, si le signal prix revient à son niveau normal, à ce moment-là, les accélérations de mutation des comportements sont possibles. Mais c'est l'espèce d'idée que ce que l'on vit est tellement violent que finalement la transition énergétique va s'imposer toute seule ou quasi toute seule.
Les choses
car on n'a plus le choix.
Si aisé que cela, c'est-à-dire que là on va essayer d'avoir une marche, on va peut-être avoir une marche de 10% de sobriété, de diminution de nos émissions, de l'usage des énergies, alors que on doit faire une diminution de l'ordre de 40 voire 50% sur l'ensemble du continent européen. Donc on ne pourra pas, c'est pas là, on aura peut-être fait notre marche de 10%, mais c'est pas ça qui va enclencher véritablement une démarche qui nécessite là une véritable politique énergétique, une vraie volonté de transition. Et sur ce plan-là, c'est clair que la France est en retard pour une série d'erreurs de choix en partie politique, en grande partie technocratique. Voilà, notre technocratie a dysfonctionné
plus dysfonctionné que Jean-Bernard Lévy, probablement. Oui.
En tout cas, il y a donc deux sujets, je pense, très différents, la transition de long terme et ce qui se passe là pour cet hiver.
Vous pensez, je vous laisse réagir, Denis Père, ce que nous faisons là, ça n'est pas une politique de transition énergétique, nous dit Philippe Askenazy.
Pas suffisamment ambitieuse. Effectivement, la machine administrative française, elle est bloquée, elle n'est pas bloquée d'ailleurs que dans ce domaine-là. Mais une des conséquences, c'est que la transition énergétique, effectivement, n'avance pas parce que les projets ne sortent pas, mettent un temps fou, effectivement, à sortir. Pour quand même nuancer un tout petit peu le propos sur les erreurs françaises, il y a quand même aussi un problème dont on n'a pas beaucoup parlé, finalement, et qui me rend plutôt un peu optimiste à court terme, qui est un problème de faute à pas de chance. C'est-à-dire que le problème, quand même, c'est qu'en 2021, on a découvert ce problème de corrosion sous contrainte dans les centrales nucléaires, qui a mis à l'arrêt un certain nombre de centrales. Je ne crois pas que ce soit un problème de manque de maintenance ou un problème de laisser aller du côté de l'air. Je pense que c'est vraiment, ce qu'on comprend des experts, c'est que c'est vraiment un problème de pas de chance. Et ça, c'est quelque chose qui peut se résoudre quand même et qui peut faire que l'hiver prochain, on n'aura pas la moitié du parc à l'arrêt, mais on aura une bonne partie qui fonctionnera. En tout cas, on peut l'espérer. Après, ce que la crise qu'on vit aujourd'hui, elle montre aussi un autre aspect sur lequel on n'a pas assez insisté. Je pense, c'est que l'énergie, c'est pas un business classique, quoi. L'énergie, c'est un business ultra complexe et ultra stratégique et ultra géopolitique. Et on l'a complètement sous-estimé. Les Allemands, les premiers, avec une politique mercantiliste, court terme. Il y a du gaz russe pas cher, on va le chercher et on construit une stratégie à 30 ans là-dessus, avec une dépendance folle à la Russie. Mais on le fait dans d'autres domaines aujourd'hui, qu'on n'a pas encore vu, dont on n'a pas encore vu les conséquences. En matière, par exemple, de véhicules électriques. Qui a fait la stratégie du véhicule électrique, même mondial? C'est Elon Musk. C'est un entrepreneur génial qui, à un moment donné, a pris une décision technique d'ingénieur, a dit le moteur électrique propulsé par une batterie, c'est ce qu'il y a de mieux au plan technique parce que le rendement est meilleur qu'un moteur propulsé par hydrogène, par exemple, où le rendement est nettement moins bon. Donc, je choisis de m'orienter vers le véhicule électrique propulsé par une batterie lithium-ion. Et donc, derrière, comme ça a marché, tout le monde a suivi, y compris les États, y compris l'Union européenne, qui a forcé une technologie sans voir du tout les conséquences géostratégiques, justement.
Économique, sociale, c'est hallucinant.
Économique, sociale et géostratégique. Géostratégique, oui. Nicolas, on est en train, le lithium, vous n'avez que 4 pays qui produisent 95%, les sources, c'est l'US Geological Survey, qui produisent 95% du lithium mondial. L'Australie, le Chili, l'Argentine et la Chine pour 25%. 95%. Et les réserves, c'est 84% dans ces pays-là. Donc on est en train de se mettre là dans la main de ces 4 pays. L'OPEP, c'est 14 pays qui arrivent à se mettre d'accord et qui ne représentent que 41% de la production mondiale. Là, vous avez 4 pays qui représentent 95% de la production mondiale et 94% des réserves. Imaginez l'OPEP du lithium qui est en train de se créer. Cobalt, vous n'avez qu'un pays. La RDC qui représente 70% de la production mondiale, qui a un monopole de fait. Alors on commence à prendre du nickel pour se diversifier, mais le nickel c'est pareil, il y a 3 ou 4 pays qui contrôlent l'essentiel de la production mondiale. Donc c'est des sujets sur lesquels là aussi on a manqué de réflexion géostratégique. Puis il y a la dépense à la Chine, bien sûr. Les cellules de batterie lithium-ion, elles sont fabriquées à 80% en Chine et encore à 70% dans 10 ans d'après la plupart des experts. On crée des usines de batterie en Europe, c'est bien, mais c'est des usines tournevis. L'essentiel, le cœur de la batterie, c'est la cellule, elle est fabriquée à 80% en Chine. Et la Chine contrôle aussi tout le processus de raffinage en amont. La Chine raffine entre 75 et 80% du nickel, du cobalt et du lithium aussi. Donc là encore, il y a eu une absence de prise en compte de données géostratégiques par nos décideurs politiques, en particulier européens, qui ont dit le véhicule électrique à base de batteries lithium-ion, c'est la solution, vous devez tous vous y mettre. C'est extrêmement préoccupant. Il y a d'autres solutions, il y a l'hydrogène, on commence à y venir.
Il n'y a pas que le lithium, hein. on va regarder le gaz naturel aujourd'hui, c'est un peu plus urgent, même d'une certaine manière. Les réserves les plus importantes, c'est où? C'est en Iran, Turkménistan, Qatar. Le Qatar, ça va à peu près. Mais alors, Turkménistan, Iran, alors là, il y a un problème géopolitique majeur. Voilà.
Mais le problème, c'est que c'est inextricable ce que vous décrivez.
Non, mais ce qui est intéressant.
On peut se désespérer sur les choix passés qui ne seraient pas bons, mais on y est, là. Ben, 2035, on ne vend plus de voitures thermiques.
Et les capacités de liquéfaction aussi. Il faudrait revenir là-dessus.
Pour le GNL.
Parce que ce qui nous a sauvés cette année.
Oui, c'est la livraison de GNL.
C'est le fait que les importations de LNG qui viennent des États-Unis, du Qatar et un peu d'Australie, etc., fondamentalement, elles ont explosé. On est à plus de 70% sur un an. Quelles sont les capacités de liquéfaction aux États-Unis? Actuellement, elles sont assez limitées.
Et même les capacités de transport du GNL.
Il y a quand même un pays d'Europe de l'Ouest qui a des capacités gazières. C'est un pays ami, pacifique, etc. Ça s'appelle la Norvège. Si vous regardez bien les réserves de Norvège, compte tenu de la demande additionnelle là qu'elle subit, aujourd'hui, les réserves de Norvège vont commencer à s'épuiser à partir des, enfin s'épuiser pas totalement, mais progressivement à partir de 2024-2025, compte tenu de la demande extrêmement forte qui lui est adressée. C'est aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans la remarque de Denis, là, c'était sur la Chine. On se posait la question dans les années 90, dans les années 2000, pourquoi ils avaient cette stratégie de protéger et de développer leurs ressources énergétiques. Surtout dans les années 90, ça baissait. Dans les années 2000, ça montait. C'est parce que eux, ils avaient une vision de long terme.
Absolument. Mais voilà. C'est le monde de demain que vous nous décrivez, parce qu'on imagine bien dans ce que vous avez décrit, Denis Père, le monde de demain, c'est pas rassurant. Et ce que vous dites là sur effectivement cette très forte dépendance et ces choix politiques qui se sont imposés aux industriels, ce ne sont pas des choix pris par les industriels. Lisez encore une fois l'interview croisée dans le Parisien de Luca de Meo de Renault et de Carlos Tavares. Ils disent la même chose que vous. Alors. Poliment, oui. Compte tenu de leur position, mais on sent bien que...
Et bien sûr. Bien sûr, on leur a imposé une technologie, alors que bon, vous avez d'autres solutions, comme l'hydrogène, qui est en train d'émerger. Mais, et sur le véhicule électrique, il faut bien comprendre qu'effectivement, les Luca de Meo et Carlos Tavares, ils sont face à des concurrents chinois qui ont des normes sociales et environnementales qui ne sont pas les nôtres, qui font travailler des ouvriers forcés ouïghours. Il n'y a pas de syndicat libre en Chine, il n'y a que un syndicat officiel présidé par un membre éminent du Parti communiste chinois. Quand vous avez quelqu'un qui est confronté à des problèmes des ouvriers sur les chantiers de Shanghai ou de Pékin qui souffrent de silicose, quelqu'un qui veut les aider, il est mis en prison. Il est mis en prison. Les salaires sont difficilement payés. Quand ils sont pas payés, il y a eu un livreur Deliveroo l'année dernière qui a fini par s'immoler par le feu parce que ça faisait 6 mois qu'il n'était pas payé et qu'il avait aucun recours. C'est ça la Chine. Et c'est ce contexte social contre lequel vont se battre Renault et PSA. Bonne chance. Bonne chance. Ça va être compliqué. D'où mon livre, Le Contrat Mondial, pour proposer un rééquilibrage des normes sociales et environnementales.
On a 2 minutes 20. Compliqué. Si vous voulez réagir à ce qui a été dit, Philippe, parce qu'il a dit sinon, et j'avance. Mais
Je pense qu'il y a certains éléments où il ne faut pas trop accuser les politiques. Il y a eu quand même un discours pendant des décennies que la mondialisation était porteur de toutes les solutions. C'est-à-dire qu'on pouvait diversifier les sources d'approvisionnement et que si on se retrouvait dans des situations où on était dépendant d'un acteur, cet acteur était aussi dépendant de nous comme consommateurs, ça devait être porteur. Il y avait toute une série de discours que c'était porteur de paix. Il faut voir qu'on était après la chute du mur de Berlin, dans cette vision de fin de l'histoire, en quelque sorte, d'une mondialisation heureuse qui, de toute manière, à travers le commerce, devait nous empêcher d'être dans une situation de guerre. Parce que s'il y avait un conflit, nécessairement, les deux acteurs perdraient trop. Et donc, on n'irait pas à la guerre. Et c'est cette sorte de naïveté globale, mais qui n'est pas qu'une naïveté politique. Elle était très largement partagée dans ce que une partie de la gauche critiquait comme le mondialisme, en quelque sorte. Et donc, il faut voir cette idéologie dominante, et ce n'est pas uniquement des choix des entreprises, des politiques. Et quant aux entreprises, il y a quand même aussi des problématiques d'anticipation. Beaucoup d'acteurs industriels automobiles ont tout fait pour freiner le passage à l'électrique jusqu'à ce que ça leur soit imposé. Et entre-temps, ils n'ont pas fait les investissements qu'il fallait. Et on n'a pas suffisamment fait de recherche mondiale sur d'autres types de batteries. Il y a des chercheurs fondamentaux qui essayent d'obtenir, qui ont mis des décennies avant d'obtenir des crédits pour faire des recherches sur des batteries au sodium. Alors le sodium, c'est du sel, c'est ce qu'on trouve dans la mer. Là, il n'y aura plus de problème de dépendance aux uns ou aux autres. Je ne sais pas à quel horizon on va arriver, mais vous voyez, il ne faut pas non plus dire que ce qu'il appelle la vision que l'on a aujourd'hui est nécessairement insurmontable, que c'est nécessairement la faute des politiques. Je crois que voilà, il y a eu une erreur générale qui aujourd'hui effectivement on paye. Alors le on, c'est plutôt les populations d'ailleurs.
On marque une pause dans un instant. J'avancerai avec ces deux sujets liés finalement. En résumé, c'est la fête est finie. C'est ce que dit l'INSEE dans sa note publiée hier. Autrement dit, le merveilleux rebond d'après Covid, c'est bon, on l'a consommé, on l'oublie, c'est du passé. On va démarrer 2023 avec 0,2 d'acquis de croissance, quand on a démarré 2022 avec 2,3 d'acquis de croissance. Et puis le FMI qui nous dit, Et puis je vous demanderai quand même, Jean-Pierre Petit, pourquoi vous êtes si sympathique avec les Allemands et leur plan à 200 milliards? Parce qu'il est quand même pas super bien accueilli en Europe. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Philippe Askenazy, économiste au CNRS, qui a publié Partager les richesses chez Odile Jacob. Denis Père, président de Nature and People First, qui a publié Le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Et Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Ah, il y a Boris qui me dit que oui, c'était le cynisme et les civistes, c'était Guy Mollet, bien sûr. Titi Gentil qui m'écrit La voiture électrique est une erreur monumentale, la construction d'une voiture électrique est beaucoup plus polluante. Rouler au diesel, c'est mieux que rouler avec une voiture électrique alimentée par de l'électricité qui vient d'énergie fossile. Bon, y a plein de sujets sur l'énergie, sur la voiture électrique. C'est quand même le même Carlos Tavares qui avait mis les pieds dans le plat dans une interview il y a à peu près un an, redoutable, où il démontait tous les aspects qu'on n'avait pas voulu voir pour aller tête baissée dans cette technologie avec des dates très proches qui sont technologiquement très très compliquées, enfin industriellement très compliquées à respecter. Bon, qu'est-ce que nous dit l'INSEE? Je vous fais réagir, Philippe Askenazy. Pouvoir d'achat stagne sur l'ensemble de l'année 2022, mais il baisse de 0,6 comparé à 2021. La consommation va se tasser, le taux d'épargne va remonter, les créations d'emplois vont ralentir, l'inflation sera à 6,4% fin 2022, avec la fin programmée des aides à la pompe. L'objectif de 1% en 2023 de Bercy est trop ambitieux. Une récession est possible en cas de pénurie d'énergie. Bouh, 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 bouh.
Il y a une forme de réalisme, en quelque sorte, de l'INSEE. On a souvent critiqué les instituts statistiques pour leur optimisme. Si vous revoyez d'un point de vue historique, en 1974, l'INSEE nous prévoyait une fin rapide après le premier choc pétrolier et un retour à la prospérité. Vous aviez la même chose en 1980, un retour à une prospérité. Vous avez eu la même en 2008, juste avant la chute de Lehman Brothers, on devait avoir une croissance économique. Bon, là, cette fois-ci, au moins, on connaît à peu près les paramètres qui sont en jeu, l'immensité, en quelque sorte, des risques et des incertitudes. Et surtout, ce que voit dès à présent l'INSEE, c'est l'ajustement que font les différents acteurs économiques qui investissent moins, les commandes dérapent un petit peu partout au niveau européen. Et tout cela, ce sont des signes annonciateurs, effectivement, d'un élément de stagnation sous une hypothèse donc médiane en plus, qu'il n'y ait pas un hiver froid qui vienne faire éclater cette forme de stabilité. Donc ce n'est pas une fin de fête Covid, c'est surtout qu'il y a une nouvelle crise qui s'est surajoutée et qui a notamment ce segment inflationniste qui à la fois mange le pouvoir d'achat des populations et pas uniquement en France et qui de notre côté va imposer des augmentations de taux d'intérêt, une politique monétaire plus restrictive. Voilà, aucun des paramètres ne peut pousser vers une croissance économique forte l'année prochaine, sauf s'il y avait un grand choc de dépenses publiques. C'est un petit peu ce que finalement essaye de faire l'Allemagne, en quelque sorte de sauver le vaisseau.
Vous voyez qu'avec un choc de dépenses publiques, on pourrait passer 2023 sans casse?
Écoutez,
on l'a fait le choc Covid de dépenses publiques. Est-ce qu'on peut se permettre de le refaire à nouveau dans les mêmes proportions?
Je suis pas en train de dire qu'on peut le faire. Je suis simplement en train de souligner que ça serait la seule arme, en fait, pour sortir d'un scénario de stagnation.
Philippe Askenazy, vous dites la seule arme. À côté de ça, vous avez quand même des observateurs de la chose économique qui vous disent si on fait un choc de dépenses publiques au moment où les politiques monétaires se resserrent, vous avez la politique monétaire qui part d'un côté et la politique budgétaire de l'autre. On ne peut pas avoir une politique budgétaire qui souffre du chaud, une politique monétaire qui souffre du froid.
C'est ce qu'on fait en ce moment. Hein,
comment Non, mais attendez. Si, historiquement, c'est exactement ce qui s'est passé au moment de l'élection de Ronald Reagan. On avait encore la politique de la Banque fédérale américaine qui était ultra restrictive. Et Ronald Reagan qui a fait les plus forts hors période de conflits armés et hors période récente, les plus forts déficits publics aux États-Unis. On a, pendant toute la période Reagan, on a eu à la fois une politique monétaire relativement resserrée et de notre côté 5% de 4 à 5% de déficit public.
Ça dépend si votre déficit public il nourrit des directions qui sont hautes que la demande et la consommation. Si vous faites du déficit public pour nourrir la consommation et que vous faites de la politique monétaire pour la réduire, il y a un moment où
je fais de la publicité en quelque sorte pour Reagan. D'un côté, il a baissé les impôts boostant la consommation plus riches et que ça s'est vu sur et puis d'un autre côté, il y avait des éléments d'investissement public sur un domaine, notamment le domaine militaire, les technologies de l'information, etc. On pourrait tout à fait aujourd'hui dire, on fait justement, un vaste plan de transition énergétique, et là, vous préparez l'avenir. De toute manière, il faudra le dépenser à un moment ou à un autre, cet argent.
Jean-Pierre Petit, enfin, il n'y a pas de raison d'espérer, là, en fait. Et le FMI, qui dit un tiers de l'économie mondiale va directement vers la récession, il est presque optimiste.
Bah, bien sûr.
Ah oui.
Pour moi, ça fait longtemps que je dis que la zone euro n'a pas d'autre alternative que d'entrer en récession. Certains nombres de pays d'Europe centrale aussi, la Russie, les États-Unis, certains pays d'Amérique latine, c'est largement plus du tiers de l'économie mondiale qui va rentrer en récession.
Et c'est la solution.
Alors, faut s'entendre sur ce qu'on dit, sur ce qu'on appelle la récession au niveau mondial. Parce que les définitions sont pas unanimement reconnues, mais disons que, à partir du moment où vous avez une croissance en rythme annualisé qui est sous les 2%, au T4, au T1, par exemple, on peut admettre l'idée qu'on est en récession mondiale. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un puissant resserrement des conditions financières, extrêmement puissant. C'est Jérôme Powell qui mène le bal.
Certains disent arrêtez d'ailleurs. Arrêtez de resserrer.
Attends, c'est lui, parce que de toute façon, il met la pression sur tous les pays émergents. Parce que sinon, les devises des pays émergents baissent. Et donc, comme il y a de l'inflation emportée, les banques centrales des pays émergents sont obligées de resserrer. Et nous, pareil d'ailleurs. Parce que nous, pourquoi la BCE est obligée de resserrer ? Parce que l'euro s'est effondré à moins de 1.
Et donc, l'inflation emportée n'est
pas. Donc, c'est Jérôme Powell, comme d'habitude, c'est la réserve fédérale qui mène le bal de la politique monétaire mondiale.
Mais quand Stiglitz dit arrêtez, monsieur Powell, vous allez trop loin. Ça y est, c'est bon, l'inflation va se résorber sans nouveau resserrement monétaire.
Alors,
aux États-Unis.
Je dis la chose suivante. Personne ne sait exactement piloter de façon assez fine la politique monétaire pour qu'on réussisse à limiter la casse ex post. C'est toujours très difficile. Parce que l'idée, c'est, pour Jérôme Powell comme pour les autres banquiers centraux, c'est de faire en sorte d'éviter de ce qui s'est passé en 73-74. C'est à partir d'un choc énergétique ou à partir d'un choc Covid plus le choc matière première, d'ailleurs pas choc énergétique, genre matière première, que les anticipations d'inflation montent trop fortement, on les laisse partir à des niveaux à 10, au-dessus de 10, etc. Et qu'à ensuite se mette en place une boucle prix-salaire ou de toute façon un mécanisme d'anticipation autoréalisante qui maintienne la spirale inflationniste. Et de ce point de vue, je tiens à dire que Jérôme Powell est en train de réussir là-dessus.
Parce que si vous regardez, si on considère qu'il a réussi, c'est le moment de ne plus rien faire.
Les niveaux d'inflation anticipés restent encore trop élevés.
Vous avez vu que les marchés ont anticipé que c'était bon maintenant. Ils ont eu un super rebond quand ils ont vu que les rendements obligataires baissaient, que le dollar.
Ils ont rebondi aussi au mois de juin, entre la mi-juin et la mi-août. Et ensuite, ils se sont recassés la figure. Donc attention, on n'arrête pas de relever le taux directeur maximal de 2023 anticipé dans les futurs. C'est ça, et c'est ça qui tire à la hausse les rendements obligataires. Donc ça, c'est très important. Et avec un taux réel aujourd'hui à 1,5-1,6%, un indice des conditions financières qui est clairement en territoire restrictif, j'ajoute qu'aux États-Unis, il n'y a pas de politique budgétaire expansive, contrairement à nous.
Pas en ce moment, non.
Cette année.
Ils ont réduit le déficit de 8%.
Vous avez un ralentissement de la demande mondiale, vous avez une incertitude géopolitique, parce qu'on n'en parle pas, mais enfin, je vous signale que quand même, il y a quand même pas mal d'éléments de notre destin instincts macroéconomiques.
Oui, qui échappent aux économistes.
Qui échappent, oui. Bah, qui échappent
oui,
à tout le monde. Et qui, en gros, se résout pas mal dans le bureau du Kremlin, hein, avec la contre-offensive ukrainienne. Où va-t-on? Pensez-vous raisonnablement que Vladimir Poutine va rester les bras croisés? Il a déjà annoncé, à mon avis, assez clairement que c'est pas le cas. Et on peut aboutir. Et je voudrais juste dire aussi que sur le gaz, sur l'énergie, d'une manière générale, on est très, très, très dépendant d'erreurs techniques. Je parle pas des sabotages. Mais par exemple, l'année dernière, il y a eu une grève en Norvège. Ça nous a assez fortement plombé sur le prix du gaz. Donc, on est très dépendant de ça. Sur le LNG, à mon
on
avis...
On avance, hein, Jean-Pierre.
Non, mais oui. Je vais vite. Mais le LNG, on a progressé de plus de 70%. Mais c'était dû au fait que la demande chinoise s'est effondrée au printemps. Et là qu'elle, alors qu'elle remonte et qu'il n'y a pas de capacité énorme, on va être aussi coincé là-dessus. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et donc, on n'a pas d'alternative Denis à rentrer
Pierre.
En récession.
Denis Pierre, je me demande à vous écouter si, effectivement, en reprenant l'idée finale de Philippe Askenazy, est-ce que, finalement, les deux n'ont pas raison, Thierry Breton et les Allemands? Mettons ce qu'il faut pour avancer. Alors avancer dans une bonne direction, une direction intelligente et pas une pure subvention du pouvoir d'achat. Emprunt européen ou plan national à plusieurs centaines de milliards d'euros. Allez-y Denis Pierre, oui.
Ouais, juste pour simplement réagir par rapport à l'inflation, je suis pas un expert comme Jean-Pierre, mais je me souviens que les Américains, c'était Paul Volcker qui avait réussi à brider l'inflation en augmentant quand même les taux d'intérêt.
Ah oui, mais à quel coût?
Là, au-delà
à quel coût?
Il y a quel coût?
C'est presque une victoire.
L'inflation était à 15.
L'inflation était à 15, voilà. Il a monté les taux
à combien? À 20.
Ah bah, le taux court réel est monté à 10.
C'est ça.
Il est monté à 10.
Le taux court réel est monté à 10.
C'est le niveau le plus élevé de l'histoire.
Ouais, hein. Oui, c'est ça.
Donc là, donc, et il y a eu 3 ans quasiment de récession.
C'est ça.
Le taux de chômage était à 18 en août 82.
Mais à quel prix?
Ça peut s'appeler une victoire à la Pyrrhus.
Non, mais tout à fait. Voilà. Tout à fait. Sauf qu'après, il y a eu quand même
un bon cycle de croissance.
Voilà. Pour revenir sur ce que disait Philippe Askenazy, effectivement, sur la solution qui pourrait être de mettre de l'argent, mais au moins dans des choses utiles et donc dans la transition énergétique, moi je peux que y souscrire, bien sûr, mais attention quand même. C'est aujourd'hui. C'est pas créateur de tant de richesses et d'activités que ça chez nous, malheureusement. La transition énergétique, et Jean-Pierre le disait très justement, elle a été préemptée par la Chine il y a une vingtaine d'années, avec une vision à très long terme, et ils se sont emparés de tous les segments essentiels, les uns après les autres, avec une politique alors totalement, évidemment critiquable, sur des normes sociales et environnementales au rabais, avec des aides publiques dont la plupart étaient interdites par l'OMC, mais ça ne les a pas empêchés de le faire. Donc ils sont emparés du secteur des batteries, on en a parlé, ils l'ont pris au Japon, hein, le leader c'était le Japon dans les années 90, à partir des années 2000, ça a été la Chine, grâce à cette stratégie. Ensuite, les panneaux photovoltaïques, où on a eu des acteurs en Europe qui étaient brillants, il y avait des acteurs français, des acteurs allemands, jusque dans les années 2011-2012, ils sont tous tombés les uns après les autres, ils ont été laminés par la concurrence chinoise et par le dumping chinois, et malheureusement l'Union Européenne n'a pas fait grand-chose, elle a réagi mais que très tardivement. C'est passé la même chose aux États-Unis. Donc tous les acteurs mondiaux en dehors de la Chine ont été laminés aujourd'hui.
C'est un peu la cécité de la mondialisation que décrivait Philippe Askenazy à cette époque. Il a raison là-dessus.
Mais tout
bah, après, refaire l'histoire, c'est pas comme ça.
Ça peut permettre quelquefois d'éviter de faire les mêmes erreurs. Et il est en train de se passer la même chose sur l'éolien. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce de Siemens Gamesa il y a quelques jours qui licencie, qui fait 6 milliards et demi de chiffre d'affaires, 1 milliard et demi de pertes, quelque chose comme ça, et qui licencie des effectifs massivement. Pourquoi? Parce qu'ils sont en compétition contre des acteurs chinois qui leur taillent des groupières grâce à des coûts de fabrication qui sont nettement inférieurs, dont Envision et beaucoup d'autres. Il y avait 3 acteurs occidentaux qui étaient encore en tête du classement il y a 2 ans. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de prendre leur place. Donc, tous ces segments de la transition énergétique qui sont absolument majeurs, ils sont en train d'être trustés par des acteurs chinois. Donc, la création de richesses, la création d'emplois qualifiés, bien rémunérés, d'emplois industriels, elle ne se fait pas chez nous. Chez nous, on rémunère surtout des installateurs, des gens qui vont faire l'installation. Là, maintenant, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas très, très créateur c'est pas créateur d'emplois industriels. Ce n'est pas quelque chose qui va réindustrialiser le pays massivement. Or, c'est de ça dont on a besoin. On a des bassins d'emploi totalement dévitalisés en France périphérique, à cause effectivement de cette mondialisation que je qualifie de déséquilibrée et sans éthique, et bien sûr à cause des mots français aussi, il faut bien le reconnaître, à cause d'un État dépensier, inefficace, le cumul des deux, la double peine, hein, qui fait qu'on n'est qu'à 11 points de PIB de notre industrie, le poids de l'industrie dans le PIB n'est qu'à 11% en France, même niveau que la Grèce, hein, on est le pays le plus désindustrialisé d'Europe, donc c'est le cumul des deux, mais donc c'est pas... Malheureusement, ça va être compliqué grâce à la transition énergétique de réindustrialiser. Je suis moi dans ce domaine-là. J'ai pas l'habitude de parler de moi, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, je tiens à préciser que moi, je travaille mais sur un des très rares segments qui est créateur d'emplois en France dans la transition énergétique. Et je m'en glorifie, mais il y en a très très peu. Hein, nous, on travaille sur des systèmes de transfert d'énergie par pompage où on utilise des turbines, des pompes pour la plupart fabriquées en France ou en Europe, et on fait travailler des génies civilistes. Mais c'est très très rare. C'est un des très très rares segments qui est créateur d'emplois en France. Donc c'est un vrai problème.
Philippe Ascalesi, sur ce que dit Denis Père à l'instant, et puis la solution est-elle finalement dans ce que propose Thierry Breton ? Allez, on passe vraiment à l'étape supérieure, un étage d'Europe en plus, avec des vrais eurobonds assumés en mode de fonctionnement permanent.
Alors c'est deux points assez différents.
Pas trop long, parce qu'après je veux qu'on fasse
très vite sur la France. Non, lorsque vous regardez la question, par exemple, de l'isolation thermique des logements, des bâtiments, c'est de l'industrie locale. Ça, oui. Les fenêtres, vous les fabriquez pas en Chine, vous les faites sur mesure, et on a des leaders mondiaux en France. Donc on peut avoir des plans qui soient justement sur le court terme, ciblés sur là où nous avons des capacités de création d'emplois locaux. Quant à ce que peut proposer Thierry Breton, on voit bien qu'on est tous dans le même bateau européen sur la question énergétique. On a construit un marché unique européen. On voit bien les interdépendances de l'économie européenne. Donc il y a une logique à faire une politique européenne, plus ambitieuse. Je pense que de toute manière, c'est finalement la meilleure solution. Ce que fait finalement, pour revenir sur le point allemand, vous dites que ça a été mal reçu en Europe. Pas du tout. Vous, je regardais Giorgia Meloni, elle applaudit si elle avait quatre mains, elle applaudirait des quatre mains. Elle a dit, ben voilà, c'est exactement ce qu'on propose depuis des années, nous, extrême droite italienne, c'est que chacun en Europe, État, nation, nous faisions notre propre politique sans en référer à Bruxelles. Donc oui, il y a des réceptions qui correspondent à ce que vous, il y a l'ambition que l'on veut avoir vis-à-vis de l'Europe, et pour tous ceux qui sont pour une Europe d'État-nation, la décision allemande est la bonne, et pour ceux qui voient une Europe plus fédérale, eh bien on va du côté de Thierry Breton. Voilà, alors ceux qui critiquent
dans les deux cas, c'est de la dépense. Alors après, effectivement, oui, c'est pas la même. D'accord.
Du tout les mêmes logiques politiques.
Le mot de la fin là-dessus, après qu'on fait la cistane.
Ouais, puis juste sur la réindustrialisation quand même. Hein. Je voudrais juste rappeler que si on a un cycle de prix élevé de l'énergie pendant 2, 3 ou 4 ans, il y a un vrai sujet de compétitivité. Hein, et pas pour les entreprises industrielles. Hein, pour toutes les entreprises, parce que tout le monde paye de l'électricité. Hein, tout le monde paye de l'électricité, y compris les banques, le secteur tertiaire, d'une manière générale. Et là, il y a un vrai sujet, hein, pour le coup. Parce que là, on est des gros perdants par rapport à au sein de l'Occident, par rapport aux États-Unis, et même par rapport à la plupart des pays est-asiatiques. Puisque le prix moyen de l'électricité, le prix moyen du gaz est beaucoup plus faible là-bas que chez nous. Et tout le monde paye l'électricité et le gaz. Voilà, donc il y a un vrai... Avant de parler de réindustrialisation, il va falloir s'occuper aussi de cela. Pour l'ensemble de l'appareil productif et pas seulement pour l'industrie manufacturière. Parce qu'on parle souvent des entreprises qui utilisent comme consommation intermédiaire le gaz. Évidemment, il y a l'agroalimentaire, il y a la pétrochimie, il y a la chimie, il y a les métaux non ferreux, il y a tout ça. Mais tout le monde utilise l'électricité. Donc voilà, donc c'est le premier sujet.
Et oui. L'emprunt européen.
Oui, alors sur l'Allemagne, moi aussi, je suis assez quand même favorable à la décision d'Olaf Scholz. Pour une fois qu'ils font de la relance, d'ailleurs, c'est quand même pas mal. Et en plus, ils en ont besoin parce qu'ils sont quand même en situation macro.
C'est beaucoup moins de la politique mercantile que par le passé, ça, on est d'accord.
Ah bah oui, la stratégie d'Angela Merkel, de toute façon, je vais pas revenir là-dessus.
Mais non, mais on va pas
tout le monde la critique
on
maintenant.
On va pas faire le procès d'Angela.
C'est bon, il y a plus trop de sujets là-dessus. Alors, puis de toute façon, bon, cette initiative n'est pas incompatible avec une approche plus coopérative. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen l'a évoqué dans son discours, hein, notamment des achats groupés de gaz aux pays extérieurs et éventuellement un emprunt européen. Je vois pas en quoi c'est incompatible.
Je dis pas que c'est incompatible, c'est un vrai sujet parce que faire de l'emprunt européen un mode de fonctionnement permanent comme aujourd'hui fonctionnent les différentes agences d'État qui endettent les États, ce serait quand même une étape franchie. On a fait des plans spéciaux pour des cas spéciaux, dans des situations de crise spéciale.
On est dans une situation tout à fait exceptionnelle. On a deux chocs d'offres qui resteront dans les livres d'histoire. Oui. On a eu la plus grande pandémie de l'histoire contemporaine, avec plus de la moitié de la population mondiale confinée, ce qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant, on a une guerre sur le sol européen, de la part de la troisième puissance militaire, puissance nucléaire et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Donc franchement, si là, on n'y va pas, si on va pas vers une approche minime, au moins coopérative dans les domaines qu'on vient d'évoquer, c'est totalement désespérant. J'ai plutôt tendance à penser qu'on y va.
Deux Français sur trois, d'après une enquête pour l'Institut Montaigne réalisée par Elab, publiée par Les Échos, jugent qu'il y a trop d'assistanat, Denis Père. Ils considèrent que le modèle qu'ils nôtrent n'incite pas au travail, n'incite pas à l'effort. Ils sont 65% à le dire. 44% des sondés disent que les aides sociales sont trop élevées. Et les quatre domaines cités, considérés comme les plus socialement accompagnés, sont le chômage, la famille, le logement, la santé. Voilà. Et tout en bas du classement, le parent pauvre de ces domaines socialement accompagnés, il s'agit des retraites. 75% des sondés considèrent que les aides publiques y sont trop faibles. Quand vous vous entendez, c'est pas vraiment un scoop, c'est pas vraiment nouveau ce type de score dans ce genre de sondage, mais c'est un sujet qui ne change pas, en fait.
Non, il y a un très grand réalisme, effectivement, de la part des Français. C'est plutôt rassurant. Moi, je me souviens d'un meeting, à l'époque où je présidais Nous Citoyens, en 2014, dans une ville de la région parisienne, où j'ai été interpellé par une jeune femme qui m'a dit « Monsieur Père, je travaille à l'office HLM de ma ville, et je vois régulièrement arriver des dossiers de gens qui ne travaillent pas, mais qui gagnent plus que moi. Est-ce que ça vous paraît normal ?» J'avais dit « Ben non !» Évidemment que non. Il y a un manque d'incitation. Il y a tellement d'aides sociales au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Il n'y a aucun plafonnement. Je vous rappelle que Fillon, dans son programme en 2017, proposait de plafonner les aides sociales à 80%, je crois, du SMIC, 90%.
Ciotti avait dit 2/3 du SMIC.
Ciotti avait dit 2/3 du SMIC. C'était le seul à avoir repris ça pendant la campagne LR, effectivement, et ça n'a pas été repris et ça n'est pas mis en œuvre. Moi, ce que j'ai vécu, effectivement, il y a 8 ans, c'est toujours une réalité. Aujourd'hui, on le sait très bien. Et si on a aujourd'hui, effectivement, des pénuries de main-d'œuvre d'un côté et près de 6 millions de chômeurs et 2 millions de gens au RSA, enfin, c'est en grande partie à cause de ça. C'est pas seulement à cause de ça. Il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes de mobilité, il y a beaucoup d'autres problèmes. Mais il y a bien sûr ce problème-là. Il y a un problème de manque d'incitation à retravailler. Il y a tellement d'aides sociales, il y a tellement de guichets aussi. D'ailleurs, c'était l'IFRAP qui avait proposé il y a quelques années de n'avoir qu'un seul guichet. Et le fait d'avoir qu'un seul guichet, ça économisait déjà plusieurs milliards d'euros.
Ça a commencé à s'améliorer.
Voilà, ne serait-ce qu'avoir qu'un seul guichet, fiscaliser les aides qui permettaient aussi de les tracer et donc de les plafonner efficacement. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable et qui est soutenu, qui est populaire en plus. Donc il faut le faire.
Quand vous entendez ça, Philippe Askenazy, 2/3 des Français, juste qu'il y a. Alors là, ces gens interrogés ne sont pas sur une analyse d'économiste. Ils sont sur ce qu'ils ressentent dans le pays dans lequel ils vivent.
Oui, c'est un appel à un ressentiment, parce que le mot assistanat n'existe pas en sciences économiques. C'est un terme péjoratif. Et je voudrais faire un parallèle, en fait, avec la question de la sécurité routière. Lorsqu'on regarde on pose la question, est-ce qu'il y a trop de chauffards en France? Ou trop de piétons qui traversent n'importe comment, etc. Vous avez 70% des Français qui répondent, oui, il y a trop de chauffards. Et ensuite, lorsqu'on redemande à ces Français, est-ce que vous êtes prudent sur la route, etc. Vous avez 80 à 90% des Français qui disent « je suis un parfait conducteur, je respecte absolument tout, je fais bien attention, etc. » Alors maintenant, lorsqu'on va jusqu'au bout de ce sondage, ce qui, je pense, est le point intéressant, c'est que vous avez une question qui est moins biaisée en quelque sorte politiquement, parce que l'assistanat, c'est comme chauffard, je vais répondre oui, voilà, de manière un petit peu automatique. D'ailleurs, je suis surpris que ça soit que 2/3. J'imaginais en fait bien.
65%.
Lorsque vous avez un autre pan qui est question, est-ce que vous recevez de la part de l'État social plus ou moins que ce que vous versez à l'État social? Donc c'est votre sentiment là-dessus.
Là, c'est même pas un sentiment, c'est chacun peut faire le calcul.
Oui, mais justement, les Français font pas le calcul, parce que vous avez à peine 6% des répondants qui disent « je reçois plus de l'État social que ce que je paye à l'État social ». Alors que c'est plus en fait un peu plus de la moitié de la population qui est dans cette situation. Et vous avez une très large majorité des Français qui répondent « au contraire, je paye plus que ce que je reçois ». Et donc là, on a en fait
donc
l'explication
de biais, de biais sondagier, quoi, voilà.
Non, c'est pas un biais sondagier, absolument pas. C'est une invisibilité de la part des citoyens de tout ce que l'État social leur apporte. Je dis pas que les gens font pas
et là,
leur calcul.
Eux, ils disent que l'État social apporte trop et que si je ne peux prétendre qu'à un petit salaire et que je regarde ce que me donne la protection sociale, mon arbitrage rationnel de personnes raisonnées fait que je me dis est-ce que j'ai vraiment intérêt à aller travailler.
Non, mais c'est ça qui est en quelque sorte d'assez énervant, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve avec un discours qui est de dire il y a des masses de gens qui en ne faisant rien gagnent plus que ceux qui travaillent du fait de l'État social, eh bien la réalité en France, c'est que on est dans une situation où c'est extrêmement mineur ce type de population et que c'est plutôt des populations que l'on va qualifier de pure rentière qui ont des revenus familiaux qui gagnent plus sans travailler. Et c'est ça la réalité sociale de la France comme d'autres pays. Et donc on est, je crois que c'est un des drames en quelque sorte de la situation française. On a un ressentiment de la population parce que on est dans des discours très formaté, alors qu'on est dans une réalité différente, et il faudrait de la part de l'État, pour un problème de cohésion sociale, ou des acteurs sociaux, qu'il y ait une forme, alors là c'est pour ça, je suis d'accord pour suivre les éléments, que chaque Français est d'une certaine manière, voilà ce que j'ai payé cette année, en termes de cotisations sociales, d'impôts, etc. Et voilà ce que m'ont apporté l'État social, donc l'éducation gratuite, la santé, etc. Et ça permettrait à chacun de se rendre compte que peut-être il n'est pas dans une situation où il est pressuré et qu'il y a des personnes avantagées.
Là, c'est un sondage encore une fois, mais ce qu'il dénonce, c'est des gens justement qui ne payent pas de cotisations. Qui ne payent pas de cotisations et qui perçoivent l'essentiel de leurs revenus. Ah, ils payent la TVA comme tout le monde, ça on est bien d'accord. Mais des quantités de choses qu'ils ne payent pas, et l'État-providence est là avec son parapluie pour leur permettre d'avoir, je ne dis pas qu'ils vivent bien, mais en tout cas, bon, l'arbitrage existe. C'est très dur à quantifier, mais Jean-Pierre Petit, votre avis par rapport à...
Je crois que le débat...
En fait, je pourrais le poser autrement, retirer la question sondage. Est-ce que l'État-providence est trop généreux ?
Voilà, vous servez au même.
Ah ben oui, mais ça va au même, mais là je suis plus sur un avis d'opinion, je suis sur une question...
Non mais parce que ça fait très très longtemps qu'on parle de l'assistanat social dans le débat général.
Oui.
Là, ce qui est peut-être ce qui change un peu, mais j'en suis pas sûr, hein, faudrait faire l'étude, ce qui change un petit peu la vie des gens, c'est peut-être les pénuries de main-d'œuvre qu'on n'a pas vu dans le passé, parce que
Denis est vrai quand on regarde le nombre de personnes au RSA,
y compris dans les métiers peu qualifiés. On parlait tout à l'heure de la rénovation des bâtiments, mais faut-il avoir les compétences.
Ça va avoir les compétences.
Non, mais il y a un vrai sujet là-dessus, parce que les professionnels du BTP nous le disent. Quand on met en place des normes environnementales qui empêchent les gens de
louer, on s'éloigne là du sujet, Jean-Pierre.
Non, parce qu'on est plein dedans. On est en plein dedans. On est en plein dedans quand même, parce que ce qui rend,
on va pas parler de celui qui s'improvise poseur de fenêtre et qui sait pas le faire, mais
oui, mais non, parce que c'est pas possible.
Non. Et voilà.
C'est tout simplement...
Et l'État-providence est-il trop généreux ?
Qui, dans l'opinion des gens, a peut-être changé, c'est ça. C'est cette souffrance par rapport à la pénurie de main-d'œuvre dans un certain nombre de domaines.
Une mesure qui existe en Belgique flamande depuis des années, qui n'existe pas chez nous, c'est qu'un chômeur en fin de droit ou quelqu'un qui est au RSA, il a l'obligation de se former dans un métier en tension, et il y en a suffisamment chez nous, pour effectivement ne pas rester dans l'assistanat. Ça n'existe pas, et ça résoudrait le problème qu'évoque Jean-Pierre. Voilà, des mesures simples comme ça. Quant au fait d'être incapable d'évaluer le problème, commençons par l'évaluer. Commençons par fiscaliser effectivement l'ensemble de ces aides et par les documenter, par savoir effectivement qui touche plus que le SMIC grâce aux aides. Et puis après, on décidera.
On a regardé précisément ce matin avec Emmanuel Le Chip des travaux qui ont été menés. Alors, les cas de gens qui, sans travailler, je ne parle pas des rentiers qui ont des revenus à part, mais celui qui n'a pas de qualification, qui n'a pas de boulot, qui, compte tenu de la structure de son foyer, touche ceci, ceci, ceci et ceci, et qui gagnerait plus que celui qui travaille, c'est quand même rarissime. À l'inverse, l'arbitrage entre... puisque j'ai intérêt objectivement à bosser, j'ai regardé combien, par exemple, une mère isolée avec 4 enfants, c'est 1800 euros à peu près de RSA. Mais cette même mère isolée, si elle travaille au SMIC, avec les aides que malgré tout le SMIC lui permet de continuer à toucher, elle dépasse les 2000 euros.
Ouais, mais enfin, elle touche pas que l'aide de 1800 euros du RSA. Elle va toucher beaucoup d'autres aides. Donc, c'est ça le sujet. C'est la multiplicité des aides. La multiplicité des guichets.
Il y a un
énorme travail à faire. Et ça mine le contrat social. Quelle que soit la quantité de gens, ça mine le contrat social. Et ça fait monter les extrêmes et ça fait monter le Rassemblement National.
De toute façon, c'est clair. Et il ne faut jamais balayer d'un revers de main le ressenti d'une population. Et pas toujours mettre de la technique et de l'analyse économique derrière. Le ressenti, c'est fondamental. Et donc, oui, effectivement, il y a un vrai travail à faire. Bon, on a terminé. Merci à vous d'avoir été là. Une info, mais je voulais que Denis réagisse, mais on n'a pas le temps. La CVAE a été validée dans sa suppression sur 2 ans par la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Parce que les LR ont suivi. On sent bien que si les LR sont pas là, Renaissance... pas bien se passer. On se retrouve, alors, Philippe Askenazy, Denis Père, Jean-Pierre Petit, on se retrouve lundi à 9h.